Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Clémence Alezard, mais aussi Juliette Gadeau, Tiffaine de Rocchini, Samuel Bernard, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Myriam Guillot. Dernier volet donc de notre série consacrée à l'Asie centrale, nous allons nous intéresser ce matin à la représentation que l'on s'en fait. Une vision assez largement fantasmée, mythifiée, faite de grandes steppes désertes, supposément vides, des régions essentiellement de transit, où les marchands ne faisaient que passer pour relier la Chine à l'Europe, et où les plus grands conquérants, Alexandre le Grand, Genghis Khan, n'auraient laissé que le souvenir de leur passage sans défigurer une nature qui, aujourd'hui encore, serait épargnée par leurs supposés descendants nomades qui refusent de s'inscrire durablement dans l'espace en rejetant la sédentarité. La terre du milieu, donc, territoire de mythe, point d'interrogation.
Devant vous, j'exauce la volonté du grand ciel bleu. Et je deviens le grand Khan de la Mongolie. Aujourd'hui est un grand jour, car j'ai devant moi l'armée des loups bleus. Et tant que cette terre existera, nos valeureux guerriers iront conquérir le monde. Et c'est par-delà nos montagnes que nous ferons régner la volonté de Tengri.
Les gens pouvaient reconnaître le papier de Samarcande juste par son bruit. Seuls les émirs, les sultans et les vizirs pouvaient s'offrir ce papier. C'est pourquoi il est aussi connu sous le nom de papier royal. Quand je tiens ce papier dans mes mains, j'ai l'impression de tenir un trésor. Le trésor du monde.
Waouh ! T'as vu la plaine, les montagnes, là, la couleur, elle est hallucinante.
Et oui, que ce soit dans les documentaires, comme celui dont on entendait un extrait, en l'occurrence Voyage en terre inconnue, dans les reportages, se consacrer notamment à Samarcande, cité millénaire, carrefour de culture et site de patrimoine mondial, ou bien au cinéma, avec cet extrait de Genghis Khan à la conquête du monde, sorti en 2007, l'Asie centrale produit sur nous un réel effet de sidération. L'Asie centrale, l'une des zones géographiques qui illustre parfaitement les implications de cette vision réductrice en termes de colonisation et d'impérialisme culturel, qui est analysée dans l'ouvrage de référence d'Edouard Saïd, l'orientalisme, créé par l'Occident. Pourtant, si ce texte a constitué l'un des livres fondateurs des études postcoloniales, en particulier dans le monde anglo-saxon, l'Asie centrale n'y tient pas une place majeure, alors même que la région semble avoir fait l'objet de moult fantasmes, et ce depuis longtemps. Asie centrale, Turkestan, ce nom donné à la fin du 19e par les grands empires, ou encore Transoxiane, un terme utilisé pendant l'Antiquité pour évoquer les territoires situés au-delà de l'Oxus, l'actuel Amoudaria, ce fleuve qui prend naissance dans les montagnes du Pamir pour se jeter dans la mer d'Aral, des expressions qui ont varié au cours du temps et qui nous éclairent sur le regard que le monde a porté sur cette terre du milieu, celui de l'Occident, mais aussi celui de la Russie, car il existe également un orientalisme russe. Alors comment la Russie a-t-elle fabriqué justement sa propre vision de l'Orient? En quoi diffère-t-elle de celle construite par l'Occident? L'Asie centrale n'est-elle qu'un concept, une invention? Comment en comprendre les frontières? Est-ce qu'il existe un orientalisme propre à l'Asie centrale, une Asie centrale fabriquée par l'Occident? Comment a-t-elle évolué au cours du temps et que révèle-t-elle des ambitions de domination des puissances extérieures? Voilà un certain nombre de questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, nous avons invité ce matin Svetlana Gorchenina. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes historienne de l'art, maîtresse de conférences associée au Collège de France, chaire d'études et culture de l'Asie centrale pré-islamique, auteur notamment d'Asie centrale, l'invention des frontières et l'héritage russo-soviétique, mais aussi l'invention de l'Asie centrale qui était parue chez Drose. Avec nous également en plateau, Chloé Drieux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, historienne, une spécialiste de production cinématographique centra-asiatique, et on parlera justement de cinéma tout à l'heure avec vous, vers la fin de l'émission, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire justement sur la question des représentations qu'on va évoquer ce matin. On va commencer avec vous, si vous le voulez bien, Svetlana Gorchenina. D'abord, un tout petit mot, parce que quand on regarde un peu l'histoire des orientalismes, on se rend compte que finalement, bien sûr, elle embrasse différentes régions, on pense à l'Afrique du Nord, au Moyen-Orient, à l'Inde, à l'Asie du Sud-Est, mais finalement, l'Asie centrale, elle fait quasiment figure d'exception, elle est très en marge en réalité des études orientalistes. Pourquoi ? Une sorte de trou noir dans les études orientalistes, vous ne trouvez pas ? Bon, hormis vous.
Je suis d'accord avec vous, l'Asie centrale, moi je ne dirais pas le trou noir, je dirais à la marge. Mmh. Et donc c'est vraiment un orientalisme très très marginal et il y a plusieurs raisons pour cela. Premièrement, On est en face à l'histoire soviétique, post-soviétique, quand le pays était extrêmement fermé. Et les études sur cet espace-là, c'était le prérogatif ou le privilège des chercheurs soviétiques. Donc ça, c'est une des raisons. Une autre raison, c'est un espace qui était toujours difficile d'accès. Donc, et une autre raison que je dirais, c'est un espace que personne ne sait comment il faut aborder actuellement. D'une part, tout le monde a peur. Tout le monde voit qu'il y a beaucoup d'argent qui se fasse là-bas, grâce au pétrole, au gaz. Mais c'est un pays qui fait peur. Donc, et d'autre part, il n'y a pas beaucoup de spécialistes qui sont prêts, qui ont été formés pour pouvoir aborder ces régions.
Alors on va essayer de le faire justement ensemble ce matin. Depuis le début de la semaine, Svetlana Gorchenina, on utilise cette expression Asie centrale. Comment définir finalement l'Asie centrale sans dire qu'il s'agit d'une espèce d'entremonde, d'un espace compris entre le monde russe, le monde chinois, le monde arabe? Comment est-ce qu'on peut le définir positivement?
Je pense qu'on ne peut pas définir positivement. Par définition, l'Asie centrale se définit négativement. Donc, si vous voulez définir l'Asie centrale, vous êtes obligé toujours rejeter quelque chose. Donc, c'est entre quelque chose, entre la Russie, entre la Chine, entre l'Inde, entre les Turquies, l'Iran. Donc, il y a, comme moi, j'utilise votre expression, un trou noir. Donc, et d'autre part, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas vraiment un concept stable. Vous avez une toute petite l'Asie centrale, donc vous pouvez réduire l'Asie centrale pratiquement jusque le Ouzbékistan, donc ceux qui, les leaders ouzbeks, surtout Karimov, ont essayé à faire à un moment donné. Vous pouvez réduire l'Asie centrale au Kazakhstan, ce qui fait du côté kazakh aussi. Vous pouvez élargir l'Asie centrale jusqu'à l'ensemble des républiques post-soviétiques, donc à l'occurrence 5, le Tadjikistan, le Kyrgyzstan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan. Donc là, et vous pouvez élargir encore plus. Donc vous pouvez faire entrer en Asie centrale la Mongolie, vous pouvez entrer dedans les Xinjiang, si vous voulez. Vous
pouvez, d'ailleurs, c'est des régions. Quand j'évoquais tout à l'heure le terme Turkestan, qu'on utilisait beaucoup au 19e, la Mongolie, le Xinjiang faisaient partie de ce Turkestan.
Oui et oui et non.
Oui et non.
Donc, parce que là, justement, on est en face d'un concept extrêmement compliqué, un concept qui semble très simple, mais en fait, c'est un concept entièrement inventé, construit, et la construction, elle a duré pratiquement 2 siècles et demi. Donc, l'Asie centrale, en tant que terme, elle est apparue juste au début du 19e siècle, et donc, elle était apparue initialement dans les récits des voyageurs, même si on a d'autres précédents qui datent des récits de Marco Polo, qui a utilisé le terme Asie médiane, mais personne n'a vu ça chez Marco Polo. Une autre observation, donc chez une Kazakh, Scriabine, c'est 17e siècle, qui a utilisé exactement le terme Asie centrale. Après, donc, il y a une sorte de réinvention de ce terme par les voyageurs. Il utilise ce terme, mais pas déjà forgé. Il utilise soit l'Asie du milieu, soit les parties médianes de l'Asie, soit les parties du milieu de l'Asie. Donc tout ça, ça montre que c'est un espace qui est vu comme un espace de parcours entre quelque chose de valeur vers une autre chose de valeur. En l'occurrence, à partir de la Russie, vers l'Inde ou vers la Chine, il fallait parcourir quelque chose. Donc, et c'est entre quelque chose, donc in between, donc c'était milieu, le parti médian de route, difficile à parcourir, et qui n'a pas eu de frontières. Parce qu'à cette époque-là, on commence à voir aussi une nation des steppes, qui devient une équivalence directe à la nation de l'Asie centrale. Et le steppe, par définition, il n'y a pas de frontières.
On va revenir justement sur cette question des frontières, mais vous disiez espace de parcours, des parcours évidemment des régions empruntées par des grands voyageurs, et on pense évidemment à Marco Polo.
Humble yourself, Marco Polo, before the majesty of the Emperor Kublai Khan.
Your majesty, I humble myself.
That's all the ceremony that's necessary. This is Ahmed, my minister of state. Ahmed is a Saracen, a descendant of the great kings of Babylon. He is invaluable to me in his diplomatic skill and his uncanny ability to collect taxes. Whatever it is you have come to China for, Marco Polo, it is Ahmed's duty to see that you do not get it.
But I come for nothing, Your Majesty. This is merely a trip for educational purposes. Having heard of the wonders of your country, I wanted to see them.
Well, my country is spread before you.
Voilà l'extrait des aventures de Marco Polo 1938 avec l'immense Gary Cooper dans le rôle du voyageur italien. Donc on a sa rencontre avec Kublai Khan, son combat avec Ahmed, son conseiller, ses amours avec la princesse Kukachin. Quand on évoque évidemment l'Asie centrale, on pense aux fameuses routes de la soie, celle empruntée par Marco Polo justement, ce marchand italien s'inscrivant lui-même dans les pas finalement de nombreux voyageurs qui bien avant lui empruntaient ces routes. Sauf que en réalité, voilà une belle reconstruction parce que l'expression route de la soie, c'est le 19e siècle.
Oui. Donc, justement, Marco Polo, il ne pouvait pas utiliser ce terme parce que le terme a été inventé par Richthofen. C'est la fin du 19e siècle et le sens était complètement différent. Par ailleurs, on associe très souvent Marco Polo en Asie, à l'Asie centrale. Donc, pour nous, l'Asie centrale, comme je dis, c'est République ex-soviétique. Mais Marco Polo, c'était plutôt le Turkestan chinois. Il n'a pas passé ni par Boukhara, ni par Samarkand. Donc, il y a aussi des contradictions de l'histoire que nous on lit et qui en réalité n'existait pas. Pareil pour la route de la soie. La route de la soie, c'est une expression qui est assez tautologique, si vous voulez. Le Richthofen, Ferdinand Richthofen lui-même, il a donné une définition suivante. La route de la soie, ce sont des routes où on a transporté le soie. Donc, ça n'ajoute rien. Et c'est un concept qui a fait son apparition brusquement à la fin du 19e siècle. Après, il était oublié. Il est réapparu beaucoup plus tard, donc c'est avec l'indépendance qu'il commence à voir son importance grandissante. Et en réalité, il n'y avait pas une route, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de chemins qui ont été reliés en tant que tels. Et au niveau historique, on n'a aucun concept qui nous donne une possibilité de discuter de ces routes de la soie en tant que telles.
Et puis il y a évidemment les nouveaux concepts qui viennent avec notamment ce programme chinois de nouvelles routes de la soie, effectivement, qui réactive d'une certaine manière tout cet imaginaire. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'échappe pas évidemment à la vision un peu caricaturale de ces régions. Alors il y a évidemment ces images de nomades avec tous les emblèmes qui vont avec, le cheval, la yourte, mais il y a peut-être d'autres images aussi qui nous apparaissent comme des vérités, mais qui en réalité sont très largement réductrices, c'est-à-dire cette idée que ces pays seraient d'abord et avant tout des espaces riches en ressources naturelles, en pétrole, en gaz, en minerais, qu'il s'agirait de les exploiter à l'envi, le fait qu'ils ne seraient pas forcément maîtres de leur destin et qu'ils subiraient aussi d'une certaine manière la domination de Moscou, ce qui est vrai mais seulement en partie. On a aussi notre vision moderne et aussi très réductrice de l'Asie centrale en réalité. Il y a un vrai renouvellement de cet orientalisme centra-asiatique.
Bon, disons que maintenant, on est confronté à cette expression des stan. Tous les pays d'Asie centrale sont vus comme des stan dangereux, imprévisibles, les régimes dictatoriaux ou autoritaires, donc ce que vous préférez, donc c'est un choix. Et derrière cette étiquette, on ne voit pas vraiment l'histoire. Ou bien cette histoire, elle est réduite à quelques figures clés, comme notamment Marco Polo pour les voyageurs, Tamerlan comme un grand personnage. Donc vous ajoutez encore Biruni Navahi, donc la grande littérature classique. Et il faut ajouter encore l'architecture de l'Asie centrale, de nouveau uniquement Samarkand, avec son décor bleu, donc le ciel bleu, le décor bleu, le grand soleil. Voilà, donc ça, ce sont des images clichés qui sont véhiculées par la littérature, par la presse, par les voyageurs. Mais derrière, c'est sûr qu'il y a une autre histoire avec d'autres personnages, d'autres sujets qui ne sont pas souvent évoqués.
Alors justement, on va évoquer peut-être cette histoire-là, et notamment s'intéressant à cette question des frontières et à cet héritage russo-soviétique. Parce qu'on pense parfois que c'est Staline qui est à l'origine du décompage des frontières de ces pays d'Asie centrale, qui d'ailleurs au départ ne sont pas censés devenir des États indépendants, il faut quand même le rappeler. Mais on se dit, voilà, c'est Staline qui, suivant le bon principe selon lequel le meilleur moyen de régner, c'est de diviser, c'est de découper, eh bien, il a fait ce découpage. En réalité, vous rappelez dans votre ouvrage que les responsables à l'époque centra-asiatiques ont largement participé de la reconfiguration, de la configuration des frontières qu'on connaît aujourd'hui.
Oui. Donc, c'est une vision un peu dépassée que c'est Staline qui a fait le découpage uniquement et que c'était...
C'est celle qu'on a aujourd'hui, nous. Hein.
Donc, qui était imposée par Moscou. En réalité, le processus était beaucoup plus complexe. On a eu plusieurs forces qui ouvraient en Asie centrale à cette époque-là. Parce qu'il faut bien dire que l'Asie centrale, À l'époque tsariste, il était représenté par deux gouvernorats. Donc, le gouvernorat du Turkestan et le gouvernorat des steppes. À partir de ces deux grands ensembles, on a constitué ces républiques. Donc, c'était un travail qui a commencé à partir de 1920. Donc, à partir de 1924, il y a eu déjà un projet de découpage. Au début, c'était des découpages uniquement économiques. Donc, l'idée était de faire des régions économiques qui peuvent être travaillées en synergie ensemble. Après, il y a eu le changement du concept au niveau de gestion des nations. Et finalement, ça aboutit à ces idées constituées des républiques. Le processus n'était pas un processus d'une journée, donc c'est duré jusqu'en 1936. Et petit à petit, les républiques ont été formées. Le but.
Sur quels critères est-ce qu'on a défini justement ces frontières? Les critères topographiques, géographiques?
C'était un ensemble de critères. Mmh. Donc, comme je dis, le début, c'était les réformes économiques, donc c'était la base. Après, donc ce qui était ajouté, c'est les questions prestige, parce que ça, c'était important à juger à l'époque. Donc, l'Ouzbékistan a été choisi comme une république clé, comme une vitrine. Et donc, c'est lui qui était censé présenter tous les succès de la politique soviétique. Ils ont tenu, les faiseurs des frontières soviétiques ont tenu compte des langues. Donc, il y a eu beaucoup d'études linguistiques qui ont été effectuées. Les républiques étaient censées être homogènes, mais bon, c'était pas assez simple à faire. Après, il fallait quand même codifier les langues, donner la forme littéraire à ces langues inventées.
Mais tout est fabriqué à cette époque soviétique ou est-ce qu'il y a aussi une forme d'héritage de l'époque tsariste?
En partie, c'était fabriqué à l'époque soviétique, en grande partie, mais c'était appuyé sur les études qui ont été faites déjà à l'époque tsariste. Donc, en ce qui concerne, par exemple, les cartes, parce qu'on a cherché aussi à rendre les frontières dites naturelles, ça veut dire que dans les idées de l'époque, il fallait que les frontières coïncident avec quelque chose, donc un antécédent quelconque sur la surface des terres, soit ça peut être des montagnes, soit ça peut être des rivières, soit donc ça peut être autre chose. Mais avec ça, les administrateurs soviétiques n'ont pas trop réussi, parce qu'il fallait tenir compte aussi les présences ethniques, les présences des populations, souvent différentes, et les relations qui n'ont pas été toujours des relations d'amitié entre les populations. Il y a eu, pendant la délimitation nationale, des véritables batailles. Par exemple, pour Tashkent, plusieurs républiques ont voulu avoir Tashkent pour la capitale. Oui. Donc, et d'autre part, le Kazakhstan, c'est quelque chose d'assez grand. Et au début, à un moment donné, il ne savait pas comment il faut partager cette république. Donc, l'ancien gouverneur d'Orenbourg. Et la première idée, c'était faire une petite république kirghize. Donc, à l'époque, le Kazakhstan s'appelait le Kirghizistan. Et une autre république, la grande république kirghize, qui doit être attachée plutôt à la Russie. Et d'autre part, il fallait aussi partager au niveau quel statut chaque république va avoir, les républiques soviétiques, les républiques autonomes ou une district autonome. Donc, et par exemple, le destin de Karakalpakistan, c'est une région autonome de l'Ouzbékistan d'aujourd'hui. Il est très significatif à l'époque. À l'époque, on ne savait pas où il faut l'attacher. Mmh. Il était attaché soit à l'Ouzbékistan, soit à la Russie, soit à le Kazakhstan. Il a changé plusieurs fois son statut. À un moment donné, il était même indépendant. Et maintenant, il y a certains idées donc, les gens parlent qu'il faut que le Kazakhstan redevienne indépendant. Mmh. Donc, il y a ce sentiment de séparatisme assez net.
Une autre idée reçue qu'on a parfois, Svetlana Gorchenina, à propos de la Russie, on dit qu'il y a une sorte d'exception russe dans la manière dont finalement elle a conduit ses conquêtes. On imagine que la Russie n'a pas eu finalement d'idéologie coloniale, il n'y a pas eu de stratégie de conquête comme d'autres puissances impériales européennes ont pu avoir. Comme si d'une certaine manière la poussée russe vers le sud avait été un peu fortuite. Je réutilise un terme que vous utilisez vous-même dans votre livre. Et en réalité, il y a bien eu, et c'est ce que vous expliquez dans ce projet expansionniste de l'Empire russe, quelque chose qui relève d'une forme de mission civilisatrice.
Donc, le rôle de la Russie, le pays colonisateur, donc c'est une aussi fait partie des idées reçues. Parce qu'on n'aime pas, surtout en Russie, on n'aime pas parler du passé colonial russe. Dans, au niveau des idées reçues et des mémoires collectives, en Russie, la Russie n'a jamais été un empire colonisatrice. Mmh. Donc elle n'a jamais commis ce péché. Donc, et ça, c'est un héritage.
Vous dites le contraire.
Moi, je dis le contraire. Donc, mais c'est un héritage de l'époque soviétique où justement. Il fallait plutôt prouver les métiers des peuples et donc parler ouvertement du période coloniale, c'était pas très bien vu.
Mais qu'est-ce qui vous permet de dire justement qu'il y a eu cette mission civilisatrice dans cette déjà, dans cet acte expansionniste?
Déjà, c'était une conquête, une véritable conquête, donc où.
Conquête militaire.
Conquête militaire, donc il n'y avait pas des pétitions, sauf quelques-unes de la part des Kazakhs qui ont été envoyées en Russie pour dire voilà, donc venez, il y a eu quand même une résistance assez importante. La bataille de Gioktepe 1881, c'est une bataille extrêmement sanglante. Quand on a ça, c'est déjà un acte de la conquête militaire. D'autre part, c'était une région qui était ménagée et qui était gérée administrativement selon une loi qui donnait une place tout à fait particulière à l'Asie centrale. Donc, ce n'est pas le code d'indigénat qui est dans les colonies françaises, mais c'est tout à fait semblable. Les gens de l'Asie centrale, ils ont eu le statut des indigènes, donc ce n'étaient pas les citoyens, et d'autre part, ils n'étaient pas aptes à faire le service militaire, par exemple. Et justement, le premier appel du tsar vers la population de l'Asie centrale pour faire le service militaire, donc c'était 1916, ça donnait la révolte le plus important en Asie centrale.
Est-ce qu'à cette époque-là, dans la Russie tsariste, l'idée que cette expansion vers le sud, c'est aussi une manière de se réapproprier un territoire qui lui revient de droit, qui lui revient naturellement, comme si finalement ces régions avaient toujours appartenu à l'histoire, à l'identité russe? Est-ce qu'il y a aussi cette idée?
En partie, oui. Donc, il y a deux choses qu'il faut préciser. La Russie se sentit... Bon, la Russie, les élites russes...
Pardon de vous couper, voilà. Mais c'est un peu ce qu'on a entendu dans le discours russe à propos de la Crimée.
Oui. Absolument. Donc, mais c'est pour ça que je voudrais dire, par rapport à l'Asie centrale, donc il faut tenir déjà les mentalités russes, donc les sentiments des ressentiments, et d'autre part, leur perception d'eux-mêmes comme un pays qui n'est pas vraiment conforme à l'Europe. Donc, ils étaient rejetés de l'Europe, et ils ont mal vécu ça, en tout cas, une partie des élites russes. Ils ont voulu prouver que la Russie, c'est un pays européen. Donc, pour être dans le club des pays européens, il faut faire comme les autres pays européens ont fait. Donc, il faut civiliser les autres. Donc, ça, c'est une des réflexions. Une autre réflexion qui était tenue à l'époque, que les Russes sont à la fois les peuples ariens et les peuples tauraniennes. Donc, les peuples ariens, ça veut dire qu'ils appartiennent à cette grande ensemble des peuples européens, qu'ils sont tout à fait aptes, donc être au sommet de l'humanité.
Oui, ça, c'est une chose très étonnante que j'ai découvert en vous lisant. Vous écrivez la chose suivante. Comme dans les discours colonialistes classiques en Europe, le droit à la colonisation est confirmé dans ce schéma à travers l'argumentation naturaliste des frontières, riche en métaphores organiques, ainsi qu'à travers le prétexte de la mission civilisatrice des peuples ariens.
Oui.
C'est-à-dire que l'expansion tsariste, elle se fait dans un environnement où finalement on revendique cette identité aryenne avec cette idée aussi qu'il faut rassembler les conditions d'une préservation durable de cette supposée race.
Absolument, parce que bon, les Russes, mais c'est très très nuancé comme question. Comme je dis, les Russes se sentaient à la fois les Ariens et les Tauraniens. Donc, d'une part, ils étaient Ariens parce qu'ils appartenaient à cette grande famille des Ariens. Ils sont blancs, les yeux bleus, donc c'est à l'évidence, ce sont des Ariens. Mais d'autre part, il y a eu aussi des choses très intéressantes. À un moment donné, les élites russes, elles se sont partagées en deux camps. Et un camp qui était appelé Vostochnik, donc réintéressant, ils ont dit que la Russie, il a beaucoup plus de liens avec l'Orient qu'avec l'Europe. Et que c'est bien aussi reconnaître que pendant l'histoire de la Russie, il y a eu des moments où la Russie était vraiment en lien direct avec l'Asie, notamment pendant la période tatara-mongole, donc ce que les Russes appellent Joug-mongol. Et là, à ce moment là, il y a le changement dans le gène, dans le sang russe, il devient aussi lituanienne. Donc, il y a...
Est-ce que c'est à ce moment-là aussi où, parce que vous expliquez qu'au départ, on appelait ce territoire, disons-le, l'Asie du milieu, et puis on sait bien l'appeler l'Asie centrale. Ce qui n'est pas tout à fait exactement la même chose. Donc, on a accolé à ces territoires une forme de centralité nouvelle.
C'est vient plus tard, un tout petit peu plus tard. Donc, au début,
mais
les
Russes.
C'est la même idée. Donc, ça fait partie du même processus. Au début, les Russes ont adapté cette identité touranienne. Ça donnait une possibilité de prendre sur leur compte toute l'histoire d'Asie centrale. Parce que ça, c'est aussi intéressant comme élément. Les Russes ont pensé que leur histoire médiévale, il n'est pas très brillante. Il n'y a pas des éléments qui peuvent être comparés avec l'époque des Renaissances. Et ça, c'était un élément qui était évoqué par le premier gouverneur général du Turkestan, Kaufman. Il disait que on peut juger que Tamerlan, il était une de nos ancêtres. Et donc, dans ce cas-là, en assimilant cette histoire, ils ont eu les pages les plus glorieuses de l'histoire de l'Asie, qui devient finalement la page russe.
Tamerlan, rappelons-le, donc, Timur le Grand, guerrier turco-mongol du XIVe siècle, a conquis une grande partie de l'Asie centrale, en reposant évidemment sa puissance sur son armée et puis sur la terreur aussi qu'elle semait, parce que ce que disent les historiens, c'est que les victimes de ces campagnes, c'est quoi? C'est entre 1 million et 17 millions
de
personnes. Bon, c'est très difficile de savoir. C'est lui qui avait choisi cette ville, Samarkand, comme capitale. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en Ouzbékistan, il y a encore aujourd'hui des statues monumentales de Tamerlan, notamment celle qu'il représente à cheval dans un square de la capitale, à Tashkent. Donc ça veut dire que Tamerlan, c'est une figure historique sur laquelle on a construit ou reconstruit un récit national.
Absolument, c'est le père fondateur de la nation. Donc, et maintenant, les Ouzbeks...
Sachant que la nation n'existait pas à son époque.
Voilà. Donc, les nations n'existaient pas, et là, on est entièrement dans le domaine des mythes construits. Donc, on peut tout décomposer brique par brique dans ces constructions de mémoire collective. Mais bon, ça marche.
Mais sont les responsables ouzbeks qui ont convoqué cette figure?
C'était pas convoqué par les responsables ouzbeks. Ils ont pris ça comme héritage soviétique. C'était à l'époque de la délimitation nationale où, donc, il y a eu ces 5 républiques. Il fallait donner à chaque république tout ce qu'un État, une nation doit avoir. Donc, les territoires, les frontières, la langue, l'histoire. Et l'histoire doit avoir ses propres héros. Donc, et dans ce partage des héros entre les nations, Tamerlan, par les soviets, il était donné à l'Ouzbékistan. Donc, il y a eu cette... après l'indépendance, les républiques, ils ont en fait continué cette ligne qui était tracée par les soviétiques.
Je reviens un tout petit instant sur cette question de mission civilisatrice des peuples aryens. Est-ce qu'on a encore cette idée en Asie centrale que les populations sont, je mets des guillemets évidemment, je mets plusieurs guillemets, pures, et qu'elles auraient supposément échappé à une forme de mixité raciale, ethnique? Il y a encore un peu cette idée-là? Qu'en reste-t-il?
Bon, disons, au niveau des discours politiques, oui, on peut trouver des rudiments de ces discours, mais ce ne sera pas des discours en lien avec les missions civilisatrices. Donc, ça, c'est clair. Le discours aryen, maintenant, il est plus fortement prononcé au Tadjikistan. Donc, les Tadjiks sont présentés, même au niveau officiel, comme aryens, ce qui met en état de choc et frustration totale les chercheurs qui arrivent là-bas pour travailler. Mais, par exemple, au niveau ouzbek, on parle quand même des mixtités, bien que cette nation des purs sang, il fait toujours sens en Asie centrale. À Turkménistan, vous allez attendre le Turkmène des purs sang aussi bien pour les hommes que pour les chevaux. Donc, ça existe. Mais en ce qui concerne Je reviens vers mes propres propos par rapport à la mission civilisatrice russe. Donc, les Russes disaient comme ça, l'Asie centrale, c'est une région si dangereuse, si sauvage, qu'aucun pays européen n'est pas capable de se lancer dedans pour calmer et pour pacifier cette région. Donc, nous, on va faire ça. Nous,
on va faire le boulot.
Voilà, nous, on est les victimes, si vous voulez. On fait le boulot le plus fatigant, le plus difficile. Et donc, après, on doit être reconnu en tant que tel. En gros, c'était une sorte de ticket que la Russie a montré pour entrer dans ce club. D'autre part, comme ils se sont comportés en Asie centrale, c'était la mission civilisatrice. Il fallait aménager les lois, donc pour que ce soit plus progressiste. Il fallait faire des réformes pour améliorer les situations au niveau de la santé, de l'éducation. Donc, et là, c'était une russification assez nette qui était donnée au développement de l'Asie centrale sous le pouvoir tsariste.
Asie centrale, la terre du milieu, c'est notre sujet toute cette semaine dans Culture Monde. Aujourd'hui, Asie centrale, le territoire du mythe. On est avec Svetlana Gorchenina.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et on va retrouver tout de suite une nouvelle invitée par téléphone, Catherine Poujol, qui est historienne, professeure à l'INALCO, spécialiste donc de l'Asie centrale. Vous avez écrit, Catherine Poujol, un article intitulé « Limites spatiales, frontières sociales, du visible à l'invisible dans l'espace géographique, économique et social de l'Asie centrale contemporaine ». Vous y abordez ces questions de frontières, de fronts, de limites qui organisent cet espace géosocial. En Europe, c'est vrai qu'on se représente souvent l'Asie centrale comme un espace un peu sans limites, sans frontières, des zones où finalement rien ne permet de dire qu'on passe d'un monde à l'autre, et notamment parce qu'on voit tout ça comme un espace supposément vide, et en réalité, il y a bel et bien des limites, bel et bien des frontières, et pas seulement des limites étatiques officielles. Et ce vide supposé, il est bel et bien rempli, et c'est simplement qu'on a des difficultés, nous, à le lire, à le décrypter. Alors, quelles sont les limites spatiales et sociales qui permettent justement de comprendre l'organisation propre de ces territoires? Et pourquoi, selon vous, est-ce qu'on a autant de mal, nous, en Europe, à les appréhender, Catherine Poujol?
Je pense qu'on a du mal à les appréhender parce que la plupart de ces limites sont premièrement invisibles et sont intégrées dans le vécu des habitants qui savent très bien qu'ils franchissent des seuils, des fronts, des limites précisément pour passer d'un espace à l'autre, mais sans que ça soit visible pour nous. Donc ça paraît un petit peu obscur comme ça, mais en réalité c'est tout à fait réel aussi bien pour les urbains qui passent de l'espace collectif de la rue pour entrer dans des maisons, en franchissant des seuils pour arriver jusqu'à la place des hôtes à l'intérieur du salon d'apparat de la maison, par exemple, sachant qu'ils traversent une cour, surtout en zone sédentaire, qui est divisée entre la partie des hommes et la partie des femmes, sans que ça se voit particulièrement. Donc ça, c'est pour les urbains. Et pour ceux qui vivent sous la yourte, il n'y en a plus énormément, mais il y a encore du nomadisme et du pastoralisme résiduel, il y a exactement la même chose. Des limites qui entourent les quelques yourtes qui constituent les pâtures d'été, auxquelles on accède par des chemins et en franchissant des espaces qui sont tous invisibles.
Alors, la première approche, évidemment, qui permet peut-être de lire cette Asie centrale, c'est la géographie, évidemment. Là, on peut délimiter des zones, des espaces-temps caractérisés par des paysages, par des temporalités de vie qui sont propres. On a les systèmes de vallées, expliquez-vous, les sous-espaces steppiques. Et là, on voit que les steppes incarnent, en fait, à nos yeux, une zone un peu étrange, presque étrangère, très sauvage, évidemment, alors que les vallées apparaissent comme un monde, disons, civilisé. Vous racontez dans votre article, justement, que déjà lors de la visite à Kokand en 1813 de l'envoyé russe Philippe Zanorov, il écrit en sortant des steppes et en rentrant dans la vallée de Fergana, je le cite, « À mesure que l'on pénètre dans l'intérieur de ce pays, on rencontre plus de civilisations. On voit des champs labourés, des villages, enfin de belles villes avec quantité de monuments et de tombeaux qui contiennent les restes des saints révérés par les habitants et par les musulmans en général. » C'est vrai que pour nous autres occidentaux, il y a quelque chose de rassurant d'une certaine manière de retrouver ces sites sur lesquels finalement la nature a enfin été maîtrisée par l'homme. C'est quelque chose qui nous dit beaucoup sur notre difficulté, voire même notre incapacité à penser la nature à l'état sauvage et notre incapacité à penser, à accepter le principe du nomadisme par lequel on ne fait finalement que passer sans vraiment chercher à inscrire notre présence dans l'espace. Catherine Poujol.
Tout à fait. Philippe Lazarov est un Russe donc d'une culture sédentaire et pour lui, la traversée des steppes, ça correspond à un moment angoissant, difficile. Il n'a pas de point de repère. Il se dépêche de franchir cet espace sauvage, et qui d'ailleurs s'appelle comme ça dans le vocabulaire kazakh, l'espace sauvage très très loin des points d'implantation des populations. Ça s'appelle Adir, ça veut dire l'espace sauvage. C'est un espace de non-droit, c'est une sorte de non-lieu absolument immense où il n'y a même pas de justice. Vous tuez quelqu'un, ça ne coûte rien en termes de justice à rendre ensuite. Donc Philippe Nazarov arrive dans les zones avec des villages et des villes et il se sent effectivement dans un monde connu pour lui, c'est-à-dire que ça le rassure. Ça, c'est évident.
Alors, il y a un espace qui, évidemment, pour nous autres occidentaux, est plus facilement pensable, c'est la ville. Et de ce point de vue, la ville d'Astana, la capitale du Kazakhstan, elle symbolise d'une certaine manière, évidemment, cette sédentarisation pour nous, en tout cas, semble bien plus naturelle. Pourtant, Astana, qui est donc la nouvelle capitale kazakh depuis 1997 à la place d'Almaty, c'est pas tout à fait une ville comme les nôtres, d'une certaine manière. Vous parlez d'une capitale post-nomade. Pour vous, en réalité, quand on regarde l'organisation de cette cité, elle n'a pas complètement perdu le caractère nomade des Kazakhs. Il faut rappeler que Kazakh, ça veut dire l'errant, le vagabond. En quoi, justement, est-ce que Astana serait post-nomade ?
Alors, c'est ma lecture de la ville d'Astana. Je ne dis pas qu'elle est définitive. Je pense que c'est comme Brasilia, au début des 10 premières années de sa construction, on voyait pas trop la ville que ça allait devenir. Là, évidemment, Astana, dans 10, 20 ans, 30 ans, ça sera peut-être une ville avec des quantités d'espace remplis. Il n'y aura plus cette espèce de semi de bâtiments, tous différents, modernes, ultramodernes, posés sur un immense jardin travaillé, etc., etc., avec un ordonnancement qui, pour moi, me rappelle, au moins dans certains quartiers, le nouveau quartier qu'on appelle la rive gauche d'Astana, l'autre côté du fleuve Ichim, ça rappelle le campement de Gengis Khan, avec le palais du président, la grande yourte blanche, et puis ensuite, rangé d'une façon très, très pensée, tous les bâtiments qui constituent l'essence du pouvoir, de la force économique, et qui, d'ailleurs, au-delà de cet espace, se termine par le bazar de l'époque du Gengis Khan, qui est là, cette fois-ci, transformé en un magnifique bâtiment qui s'appelle le Khan Shatir de Norman Foster. Donc, on peut y voir une sorte d'application peut-être subliminale, c'est peut-être pas complètement voulu, mais d'une ville qui n'a pas un seul centre, mais qui en a plusieurs, et qui ne fait ville que par le fait que ses habitants sont obligés de se déplacer du matin au soir, d'un point à un autre.
Ainsi peut-on se demander, écrivez-vous, si l'urbaniste en chef du projet urbain d'Astana a traité les espaces verts ou les jardins comme un moyen de promouvoir une pompeuse scénographie du pouvoir directement inspirée de l'urbanisme sédentaire musulman, aussi bien que par la planification soviétique, ce qui vient à l'esprit quand on découvre la ville, ou s'il a tenté d'absorber des pans entiers de steppes sauvages et de les insérer dans les limites urbaines retravaillées comme espaces verts sur lesquels il allait poser ses objets architecturaux.
C'est comme ça que je le perçois. Mais bon, c'est parce que je suis totalement fascinée par la culture kazakh, par cette espèce d'énorme espace vide qui entoure les individus. Et puis ça nécessite aussi la géographie sacrée, l'invisible, la part importante des éléments qui ne se voient pas et qui sont immatériels pour meubler, pour peupler cet immense vide qui, en fait, est plein dans la tête des populations. Et heureusement pour eux, parce que sinon, ils se sentiraient peut-être un peu seul au milieu de cet espace.
Il faut rappeler que cette ville d'Astana est devenue la capitale en 1997. C'était une décision du président Nursultan Nazarbayev. Qu'est-ce qu'il faut lire derrière le transfert de la capitale et la création de cette ville ? Même s'il y avait déjà une ville, une petite ville baptisée Akmola qui était en lieu et place de cette nouvelle capitale, mais est-ce qu'il faut y voir le désir peut-être d'oublier, de tourner la page de la période soviétique pour entrer dans une nouvelle ère ? Celle de la mondialisation, en l'occurrence, oui.
Tout à fait. Je pense que les raisons de transporter la capitale, d'abord, c'était la recentrer au centre du pays. C'était aussi une façon de faire remonter une partie de la population kazakh qui était plus située au sud du pays, dans l'ancienne capitale Almaty, qui elle-même était très proche des frontières. Donc, c'était pas une ville qui, stratégiquement, était bien configurée pour un espace souverain. Ça pouvait marcher pour une fédération soviétique, mais pour un pays souverain, il fallait que la capitale soit plus au milieu, plus vers le nord d'ailleurs, pour être un peu plus près de la Russie quelque part, un peu plus loin de la Chine et de ses essais nucléaires, etc. Enfin, il y a toutes sortes de raisons. Et il fallait une nouvelle ville pour un nouveau pouvoir créer une image d'un État tourné vers le futur, qui se construit à toute vitesse, dans une modernité sidérante, et voilà, c'est Astana.
Merci beaucoup Catherine Poujol, je rappelle que vous êtes historienne, professeure à l'INALCO. Svetlana Gorchinina, peut-être réaction à propos de Catherine Poujol.
Je voudrais dire peut-être deux mots par rapport aux frontières. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très spécial en Asie centrale. On est toujours en face des frontières visibles et invisibles, mythiques, réelles, frontières dépassées, donc frontières historicisées, frontières qui existaient à l'époque, qui n'existent plus maintenant. Par exemple, donc, on a les traces des frontières qu'on peut trouver dans le paysage en Asie centrale. Turkménistan, c'est les murailles d'Antioche. Donc, c'est une sorte d'élime, mais qui sont dans l'espace centra-asiatique. Une autre muraille énorme, c'est Adirbent en Ouzbékistan. Donc, ce sont des limites réelles, des frontières réelles qui séparaient la vie des nomades des vies des sédentaires. D'autre part, les frontières qui ne sont pas si visibles, mais qui étaient extrêmement respectées à l'époque, ce sont des frontières entre les oasis fertiles, donc qui sont autour des villes, autour des frontières, et des steppes qui sont juste à côté. Et c'était ça, les véritables frontières qui existaient à l'époque, qui sont passées complètement invisibles. Pour les voyageurs russes, après pour les politiques, les steppes n'avaient pas de frontières. Donc ça, c'était faux. C'est tout simplement une traduction de non-méconnaissance qui était plaquée sur un espace éloigné et inconnu. Et d'autre part, cette méconnaissance, elle donnait des projections très intéressantes au niveau politique. Quand les Russes avançaient, ils ont eu une oukase, donc exacte, n'a jamais fixé les frontières lors de l'avancement militaire. Les frontières n'ont jamais été fixées entre les Kazakhs, donc les Ordes, et les Russes, entre les Kanas et les Russes.
Parlons de projection, mais cinématographique cette fois. Je me tourne vers vous, Chloé Drieux. Vous êtes historienne, chargée de recherche au CNRS et une spécialiste des productions cinématographiques centra-asiatiques. L'Ouzbékistan, ça a été le premier pays d'Asie centrale à s'intéresser au cinéma, d'abord à en projeter, puis ensuite à en produire. Le premier studio ouvre en 1924. Alors, dans les premières années, c'est vrai, en pleine soviétisation. Donc, les premiers films sont très essentiellement en réalité des films de propagande et en général, sont très souvent des films russes, justement. Peut-être un mot sur ces films russes, ces premiers regards que les Russes finalement vont porter sur cette république socialiste d'Ouzbékistan naissante.
Oui, alors avant d'aborder ce sujet-là, en fait, il faut dire que le premier studio de cinéma est créé à Boukhara, dans la ville de Boukhara. À l'époque, on a une république de Boukhara avant que ce soit une république d'Ouzbékistan. Et ce sont les institutions locales qui décident de créer des studios de cinéma. Donc ce sont les Boukhars qui décident eux-mêmes de demander pour ce faire l'aide de studios de Leningrad, donc pour mettre sur pied une première industrie cinématographique. Donc je pense que là, c'est important de voir que déjà dès 1923-1924, on a une prise de conscience que, comme vous le disiez tout à l'heure, la représentation peut être un mode de domination, c'est ce que dénonçait Édouard Saïd, et que le cinéma est aussi un objet de modernité absolument incroyable, un objet de propagande absolument incroyable, et que tout État moderne se doit de mettre sur pied une production cinématographique. Mmh. Effectivement, le problème, c'est que de créer une production, ou en tout cas une industrie de rien, ça veut dire qu'on n'a pas de cadre cinématographique. On n'a pas d'opérateur, on n'a pas de réalisateur, on n'a pas des scénaristes, on peut trouver des écrivains. Mais encore, il faut quand même se former à l'écriture de scénarios. Et du coup, les premiers films vont être réalisés par des Russes qui sont invités pour travailler localement et qui vont véhiculer leur représentation de l'Asie centrale, qui est une représentation orientaliste, parfois stigmatisante, de type colonial, qu'on peut voir dans Pépé le Moko, par exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de cet extrait de Casbah, de femmes difformes, d'hommes et d'enfants qui grouillent. Enfin voilà, il y a quelque chose
et quelle année, quelle période il faudra attendre pour voir une forme d'émancipation par le cinéma, pour que enfin les cinéastes finalement s'imprègnent des cultures et des codes locaux? C'est quel moment ça?
En fait, ça va très vite. C'est-à-dire que la décolonisation de l'image va très très vite, et dès 28, y compris par des cinéastes russes qui travaillent avec des consultants, notamment Nabi Ganiev et Souleymane Rodjaïev, qui seront les premiers cinéastes ouzbeks. Donc cette décolonisation de l'image va très vite. Pour moi, elle commence en 28 et bien avant une décolonisation qui pourrait avoir lieu dans les grands empires européens.
Pourtant, celui dont on dit qu'il est le père fondateur du cinéma ouzbek, c'est Nabi Ganiev, 1904-1952. C'est lui qui marque véritablement la naissance d'un cinéma véritablement ouzbek. Je ne sais pas s'il faut utiliser cette formule. Mais...
Alors oui et non. En fait, moi, ma préférence va à l'autre cinéaste, donc, qui s'appelle Soleyman Rojaev, qui a fait un seul film. Donc Svetlana a évoqué tout à l'heure les révoltes de 1916 en Asie centrale contre la conscription. Donc c'est le cadre de la Première Guerre mondiale. L'armée russe a besoin d'hommes, et notamment pour les travaux d'arrière. Et un décret est pris par le tsar pour conscrire les populations centra-asiatiques, ce qui donne lieu à des vagues de révolte en 1916 assez importante, et Souleymane Rojaev choisit ce sujet pour montrer en quelque sorte la volonté d'émancipation avant 17, avant la révolution russe, et pour créer donc cet héritage symbolique, enfin cet héritage national, un premier mythe national en fait.
Avant d'en venir à la période contemporaine, Chloé de Rio, qu'est-ce qui va se passer au moment de la dislocation de l'URSS? Qu'est-ce que ça provoque comme type de rupture dans le cinéma ouzbek?
C'est un saut qui est quand même, en fait, très rapide, parce qu'il faut vraiment voir qu'il y a...
Avançons pour qu'on essaye d'arriver à l'époque contemporaine, mais dans les thèmes traités, dans les codes, qu'est-ce qui va changer?
La fin de l'URSS, c'est la période de la désillusion, et là, il faut plutôt regarder le cinéma kazakh, notamment celui de la nouvelle vague kazakh, qui est un cinéma de la désillusion, de cette aventure soviétique qui avait commencé dans les années 20. C'est le film de Nougmanov, L'Aiguille, qui parle de la drogue, et là, c'est vraiment un choc, c'est un grand succès, mais c'est aussi un choc, parce qu'on montre des choses qui ne doivent pas être montrées à l'écran dans une au sein d'un monde soviétique qui est censé être parfait.
On parle de cinéma. Il faut entendre du cinéma, en l'occurrence du cinéma kazakh, un film qui est sorti en 2002 sur lequel je crois que vous avez travaillé, La Route.
Любое произведение искусства, пусть даже самого известного большого мастера, вещь такая хрупкая и беззащитная перед вкусом публики, потому что объективных критериев, которые могли бы оценить достоинства и недостатки произведения искусства, не существует. И в этом плане мы очень завидуем ученым, открытия которых можно проверить экспериментально.
La route, film de ce réalisateur kazakh, Darayan Omirbayev, qui est sorti en 2002. Un homme prend la route pour se rendre chez sa mère, malade, qui traverse les steppes. L'occasion pour lui de retrouver ses vieux souvenirs, de s'interroger sur l'homme qu'il est devenu, un homme un peu mutique et dont le travail est très très loin de lui apporter satisfaction. Une sorte de voyage initiatique. Chloé Drieux, Omirbayev, il incarne ce renouveau justement du cinéma kazakh post-soviétique.
Oui, de la période de la perestroïka et puis post-soviétique, le thème central de son film, c'est la question de l'acculturation, c'est-à-dire comment est-on kazakh aujourd'hui. Donc ce cinéaste dans La Route qui reprend la route, qui doit assister aux obsèques de sa mère, qui arrive trop tard, et c'est vraiment la rupture avec le monde de l'enfance, avec le monde de l'aoul, donc de l'ancien campement, en tout cas du village, de la langue kazakh. Enfin, on sent que tous ces films traite de cette acculturation progressive et de cette russification progressive et de l'impossible retour en arrière.
Oui, d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous parlez d'acculturation, mais en même temps, lui appelle un certain nombre de figures que nous avons du côté de l'Europe. Par exemple, quand on a ce cavalier kazakh qui surgit de nulle part en haut d'une butte alors qu'il traverse la route, voilà un pur cliché de... C'est étonnant d'ailleurs.
Oui,
il joue aussi sur les clichés.
Bien sûr, il joue aussi sur les clichés. Oui, bien sûr. C'est Seri Kaprimov, qui est un autre réalisateur d'ailleurs, qui était un peu ivre.
Le cavalier kazakh. Faut quand même rappeler juste un petit mot quand même, Chloé Drieux, que le Kazakhstan, c'est encore un pays qui est dirigé par un homme directement sorti de l'ère soviétique, un Nazarbayev. Il est président depuis l'indépendance. De quelle liberté est-ce qu'on peut jouir en tant que réalisateur aujourd'hui? Quelle est la réalité de la censure?
Alors, bon, sur le Kazakhstan, en fait, c'est pas un, enfin, l'industrie cinématographique ne me semble pas être excessivement contrôlée, si ce n'est des grosses productions qui sont là, entre autres, pour contrer, par exemple, l'image de Borat de Cohen il y a quelques années qui dépréciait de façon assez virulente le Kazakhstan. Mais, enfin, il me semble que l'industrie cinématographique kazakh, et pas en fait, qui est pas vraiment une industrie, mais plutôt une activité, fonctionne de façon relativement libre, notamment via des coproductions. Mmh. En tout cas, c'était le cas dans les années 2000.
Comment est-ce qu'il a été accueilli à la fois par les Kazakhs et à la fois par le public européen? Parce que ces films, les films de Omir Bayev, certains ont été découverts dans des festivals. Je pense au Festival des Trois Continents, même au Festival de Cannes, où je crois qu'il y a un de ces films qui avait été récompensé par ce prix Un Certain Regard. Comment est-ce qu'on accueille ce cinéma kazakh?
À l'étranger, on l'accueille plutôt bien. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez confidentiel. Il n'y a pas de grandes sorties salles, mais c'est vrai que ce sont des films d'arrêt d'essai, de festivals, de connaisseurs. Localement, les films sont, en tout cas, ceux d'Arejan Omirbayev étaient peu diffusés parce que, suite à la perestroïka, les réseaux de salles étaient en déliquescence complètement. Donc maintenant, c'est plus le cas. Et, pas forcément bien accepté parce que on renvoyait une image de soi en tant que spectateur ou spectatrice kazakhstanais, kazakhstanaise, qui n'est pas forcément celle qu'on avait envie de voir. Et souvent, le discours face à ces films, c'était « mais nous, on veut du divertissement, on a envie de s'amuser, on n'a pas envie constamment qu'on nous renvoie cette image d'acculturation, de comment vivre au quotidien avec à la fois notre héritage soviétique, russo-soviétique, kazakh, enfin c'est... »
Ce divertissement, c'est justement une des choses qu'on trouve beaucoup, je crois, dans le cinéma ouzbek. Alors, on n'est pas... grand connaisseur du cinéma ouzbek, mais il y a par exemple ce film qui s'appelle Les Garçons dans le ciel de Zulfikar Moussakov, qu'on avait découvert au festival du cinéma d'Asie de Vesoul. C'est l'histoire de quatre amis dont la vie est totalement bouleversée par l'arrivée d'une nouvelle élève qui s'appelle Lola. Et c'est un film qui a rencontré en l'occurrence un très grand succès en Ouzbékistan. Je crois que les spectateurs rient beaucoup. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Svetlana Gorchenina, mais en tout cas, on voit que la recette du succès de ce film, c'est le comique.
Oui, c'est le comique.
C'est le divertissement.
C'est le divertissement. Et le cas du cinéma ouzbek est complètement différent de celui du cinéma kazakh. C'est-à-dire que la production cinématographique ouzbek fonctionne quand même bien, mais elle est destinée essentiellement au marché local, soit par des séries TV, soit par des films, mais des films pour le marché local.
Svetlana Gorchenina, peut-être en guise de conclusion, je ne sais pas ce que vous inspire, vous, les films aujourd'hui qui sont produits en Ouzbékistan, par exemple, et qui nous parlent de ce pays, cette question de l'acculturation dont nous parlait Chloé Drieux.
Bon, écoutez, moi, je ne suis pas...
Vous n'êtes pas une grande spécialiste de cinéma. Non, bien sûr.
Les films, je regarde de temps en temps et vraiment pas avec beaucoup d'attention. Mais ce qui est intéressant, il me semble que déjà cette possibilité que les films d'Asie centrale, ils ont de sortir de leurs frontières pour être montrés ailleurs et que les noms qu'on ne connaissait pas avant, maintenant, donc, disons, les gens, ils commencent à attendre. Ils peuvent aller voir et regarder les films.
Merci beaucoup à toutes les deux, Chloé Drieux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappellerai votre ouvrage « Fiction nationale, cinéma, empire et nation en Ouzbékistan 1924-1937 » qui était paru chez Kartala. Svetlana Gorchenina, merci infiniment de nous avoir accompagnés ce matin.
Merci à vous.
C'était un plaisir. Je rappelle vos ouvrages « Asie centrale, l'invention des frontières et l'héritage russo-soviétique », mais aussi « L'invention de l'Asie centrale » qui était paru chez Droz. On mettra évidemment toutes les références de vos ouvrages sur le site de France Culture. Mais tout de suite sur France Culture, l'heure de retrouver le monde des idées. Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors depuis le début de cette semaine, on s'intéresse à l'arrivée de Donald Trump et à ses conséquences politiques et géopolitiques. C'est vrai qu'avec Donald Trump aux commandes de la première puissance de notre époque, où va le monde? C'est une vraie question.
Eh bien, réponse d'Ana Palacio, l'ancienne ministre des Affaires étrangères espagnole, qui demeure très présente dans le débat international. Le 19e siècle, dit-elle, a vu s'imposer en Europe un système d'équilibre des puissances basé sur la souveraineté des États-nations. Au XXe siècle, on a tenté d'ajouter ce qu'elle appelle une superstructure morale obligeant les États souverains à coopérer dans l'intérêt général de l'humanité. C'est ce qu'ont symbolisé et tenté d'incarner des forums internationaux tels que la SDN d'abord puis l'ONU. Ce système, d'abord réservé à quelques-uns, s'est étendu au monde entier après la fin de la guerre froide. En réalité, ce sont les idées optimistes et progressistes des Lumières qui ont triomphé durant la période bénie qui court de 1989 à 2008. Un mouvement vers l'unification progressive de l'humanité sous quelques règles communes et l'ouverture du monde aux échanges. Mais ce système a été frappé au cœur par la crise de 2008. Celle-ci a décrédibilisé les élites dirigeantes qui ne l'avaient pas vu venir, qui l'ont mal géré et qui n'ont pas pris leur juste part des pertes. Il est terriblement significatif que ce soit au cœur même du système international dans les deux pays anglo-saxons qu'un même coup d'arrêt ait été donné par l'électorat. Car le Brexit annonçait la victoire de Trump. Ce qui triomphe, annonce Timothy Garton Ash dans The Guardian, c'est le vieux nationalisme. Et la victoire de Trump est le point culminant de la séquence ouverte par Vladimir Poutine, Recep Erdogan, Narendra Modi, Xi Jinping. Pour l'instant, écrit Garton Ash, ces leaders nationalistes s'inspirent les uns des autres. Ils se félicitent mutuellement de leur victoire. Ils se renforcent ainsi devant leur propre peuple. Mais nous autres Européens, nous sommes bien placés par notre douloureuse histoire pour savoir que les intérêts des nations dominées par de tels leaders finissent inévitablement par diverger. Anna Palacio écrit que sont désormais possibles trois scénarios. Le premier serait celui qui se dessine actuellement, un retour au vieux nationalisme, celui du 19e siècle, dont Donald Trump montre la voie. C'est la position assumée par Theresa May lorsqu'elle dit « Si vous êtes citoyen du monde, c'est que vous êtes citoyen de nulle part ». Dans cette configuration, chaque État s'occupe de ses affaires, négocie les meilleures conditions possibles avec chacun des autres, sans chercher à imposer ni ses visions ni ses valeurs. C'est le monde des faiseurs de deals dont le nouveau président américain a une expérience intime acquise dans le monde de l'immobilier. Le deuxième scénario, c'est celui que tente d'incarner notre Union européenne. Continuer dans la direction prise dans la seconde moitié du XXe siècle en espérant qu'il n'est pas désormais caduque. Quant au troisième, dit Anna Palacio, il consisterait à courir aux abris en se tordant les doigts en attendant que l'orage s'éloigne. Ce n'est pas une position réaliste, même si on peut redouter qu'elle devienne vite assez répandue dans le monde. On ne peut pas revenir au passé, conclut-elle. Foin des certitudes d'autrefois, il va falloir naviguer à vue. Et de conclure, je la cite, l'investiture de Trump marque l'entrée dans une nouvelle époque de l'histoire du monde, un nouveau siècle géopolitique. Personne ne peut dire si cela sera une époque de conflit ou d'harmonie, mais nous autres Européens devons penser à nous protéger.
Et alors sur le plan économique, que peut-on attendre, que doit-on redouter de cette présidence Trump ?
The Economist faisait la semaine dernière un certain nombre de pronostics à ce sujet. Constat, les milieux d'affaires sont optimistes aux États-Unis. L'élection de Trump a été saluée par une hausse des valeurs boursières à Wall Street. Le nouveau président a en effet promis une baisse considérable de l'impôt sur les sociétés, qui, à 35% aux États-Unis, est l'un des plus élevés de l'OCDE et que Trump a promis de ramener à 15%. Il a également promis des investissements considérables dans les infrastructures afin notamment de créer des centaines de milliers d'emplois. On peut donc raisonnablement miser sur une croissance soutenue cette année aux États-Unis. Mais le soufflet pourrait retomber rapidement, avertit aussi l'hebdomadaire britannique. D'une part, toutes ces dépenses nouvelles, assorties d'une baisse des revenus fiscaux, vont faire exploser les déficits. La hausse des salaires attendue pourrait de son côté faire repartir l'inflation. La Fed sera par conséquent obligée de remonter plus tôt et plus vite que prévu ses taux d'intérêt. En outre, si Trump met en œuvre la politique protectionniste qu'il a promise à ses électeurs, il infligera un rude coup au système d'échanges commerciaux mondial que les États-Unis ont tant contribué à organiser. L'instabilité, avec notamment des guerres commerciales, est une perspective qu'on ne peut donc écarter. Enfin, l'équipe présidentielle est composite. Elle comporte des républicains traditionnels tels que le vice-président Mike Pence, conservateur et favorable au libre-échange ainsi qu'à l'immigration, mais aussi des agitateurs tels que Steve Bannon, Peter Navarro ou Michael Flynn, respectivement conseiller du président, directeur du Conseil national du commerce et conseiller national à la sécurité. Entre ces deux tendances, il y aura nécessairement des affrontements et personne ne peut dire avec certitude dans quel sens penchera Trump. Mais s'il est jacksonien, ce sera dans celui de ses électeurs plutôt que dans celui de la majorité républicaine du Congrès.
Trump, le jacksonien, peut-être. Merci beaucoup, Brice Couturier. On peut bien sûr retrouver toutes vos chroniques sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, sur France Culture, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.